Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à tous, vous êtes sur la radio Graphite, sur 94.9 et graphite.net. Je suis Stéphane Poinçard en direct du studio avec 5 étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne et je suis avec Rémi Marion Marnet, Lucas Beuriot, Clément Renard, Elisabeth Van Bokstal. On se retrouve ces 3 premiers mercredis de décembre entre 14h30 et 18h30 pour des émissions autour du cours de l'UVWE1 à l'UTC. UV écrire sur le web. Les étudiantes et étudiants viennent y présenter leurs résultats de leur recherche au cours du semestre, articulés autour de questions socio-technologiques portant sur le web. En WE1, nous abordons les thèmes de l'histoire du web, du capitalisme de surveillance, des logiciels libres, du web décentralisé. On voit aussi des techniques et des méthodes d'écriture et de lecture scientifique. On y découvre le fonctionnement d'Internet. Vous aussi, vous pouvez découvrir ces cours sur le site librecours.net. Le thème pour cet épisode est celui de la société algorithmique. Je vais passer la parole à Rémi pour nous en dire plus.
Bonjour. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la société algorithmique. C'est un terme qu'on retrouve souvent, ce terme de société algorithmique, que ce soit dans des journaux, dans des émissions ou à la télévision. C'est un terme qui est souvent utilisé pour, globalement, l'idée d'une société guidée par la technologie, sans pour autant qu'on y mette une réelle définition ou des explications. Mais qu'est-ce que c'est donc la société algorithmique et quelles sont ses manifestations dans le monde moderne? Un algorithme est, selon le Larousse, un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Cette définition est extrêmement large. Elle inclut à la fois le crible d'Eratosthène, qui est une suite d'opérations simples pour trouver les nombres premiers, et les IA actuelles. La société algorithmique est caractérisée par une omniprésence de ces algorithmes, notamment dans des domaines touchant directement la société et le citoyen, comme dans l'administration publique, dans la justice, dans le gouvernement ou le monde du travail. Ces algorithmes ont des avantages. On peut penser que l'utilisation d'un algorithme va favoriser l'égalité, car il va traiter toutes les personnes de la même façon, rendre plus rapide certaines tâches, économiser de l'argent. Mais ces avantages ne viennent pas sans inconvénients. Déjà, concernant l'égalité, un algorithme peut toujours être biaisé. Que ce soit les IA, qui vont s'entraîner sur une mauvaise base de données par exemple, elle va avoir du mal à différencier certains paramètres. Ou les algorithmes programmés à la main, qui peuvent reproduire la partialité de celui qui les a programmés. De plus, l'impartialité froide d'un algorithme n'est pas forcément adaptée à tous les domaines, notamment ceux touchant directement les citoyens. Des questions morales se posent aussi. Un algorithme peut-il prendre une décision de justice risquant de détruire la vie d'un citoyen? Et comment pourrait-il trancher lors d'un litige? On voit donc rapidement les limites de ces algorithmes, mais pourtant ils sont de plus en plus nombreux et présents, comme vous le présenteront mes camarades.
Je vais passer la parole à Lucas pour la deuxième intervention.
Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la VSA, autrement dit la vidéosurveillance algorithmique, qui est un sujet touchant à la fois à la technologie et à nos libertés individuelles, ainsi qu'à notre société. Pour commencer, qu'est-ce que la VSA? Eh bien, la VSA désigne les systèmes qui utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique qui ont pour but d'analyser des flux vidéo en temps réel et de permettre alors d'identifier des comportements dits suspects. Présentée comme une solution moderne pour renforcer la sécurité, celle-ci soulève des questions sociétales majeures, notamment dans le cadre de son déploiement en France. Ces enjeux sont dans l'actualité. Nous avons par exemple le cas des Jeux Olympiques 2024 à Paris, où la VSA a été autorisée pour la première fois à titre expérimental. Selon Jean-Claude Paille dans son texte intitulé « Un pouvoir algorithmique » sorti en 2016, l'introduction de ces technologies s'inscrit dans une logique plus large de normalisation algorithmique. Les citoyens s'habituent de façon progressive à une surveillance renforcée. Cependant, cette habitude n'est pas anodine. Elle façonne nos comportements de manière invisible et inconsciente et modifie notre rapport envers les libertés individuelles. Dans le même article, Jean-Claude Paille se sert du concept de panoptique pour décrire comment la crainte d'être surveillé nous incite à ajuster nos comportements en fonction. Ce concept tiré de l'esprit de Jérémy Bentham est maintenant applicable en milieu urbain, où la population ne sait pas si elle est sous surveillance ou non. Cependant, ce doute suffit pour restreindre sa liberté. Selon l'algorithme, un groupe de jeunes dans un endroit public ou même les individus sans domicile fixe se transforme en suspect, car ils ne respectent pas les critères fixés par ces dispositifs. Par conséquent, la VSA ne métamorphose la ville qu'en un espace de passage stérile, où chaque mouvement est sans doute examiné. Cela soulève la question de savoir quel comportement peut être jugé normal ou non. La Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet, questionne dans sa brochure concernant la VSA, parue en 2024. Qui décide de ce qui est normal? Qui contrôle ces décisions? La Quadrature du Net souligne aussi l'impact du discours de l'insécurité, un concept qui ne se base pas sur des faits réels, mais sur des peurs amplifiées par les propos politiques. Pour mieux comprendre les dangers de cette normalisation algorithmique, voici un extrait d'une intervention de Katia Roux, spécialiste des droits humains à Amnesty International, lors de son passage sur la radio RFI.
Alors le système qui va être développé, qui est d'ailleurs déjà testé avec la loi JO, c'est de la vidéosurveillance algorithmique. Donc concrètement, ça veut dire que ce sont des algorithmes qui vont repérer sur les flux issus des caméras de vidéosurveillance des comportements suspects, des situations anormales pour alerter les agents de sécurité. Ça comporte déjà des risques en matière d'ingérence dans la vie privée, l'effet dissuasif de cette surveillance et puis potentiellement des discriminations. Ça pourra peut-être permettre de cibler tel ou tel groupe de population en fonction des situations qu'on va repérer. Mais ce sur quoi on alerte et ce qui nous inquiète véritablement, c'est la porte ouverte à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. On le sait, avec ces systèmes, ça marche par paliers. Là, on vient de passer une marche et ce qui nous attend probablement à la prochaine, ce sont les systèmes de reconnaissance faciale, ce sont les systèmes de reconnaissance des émotions qui sont déjà expérimentés en France, dans beaucoup de villes. Et aujourd'hui, il est très important de pouvoir l'interdire avant qu'il soit déployé, parce qu'après, c'est toujours trop tard.
C'était un extrait de l'intervention de Katia Roux sur RFI. Malgré les promesses de sécurité avancées par les organismes déployant la VSA, aucune étude scientifique ne démontre que l'utilisation de la VSA est efficace pour prévenir les crimes ou encore le terrorisme. Les outils déployés se reposent sur des données du passé. Mais le problème est, comme le rappelle la Quadrature du Net, que les algorithmes de machine learning sont intrinsèquement opaques. On retrouve alors un tas de biais structurels qui discriminent en fonction de la couleur de peau ou encore des vêtements. Une personne atteinte de handicap pourrait alors être signalée comme ayant un comportement anormal, comme le souligne Amnesty International. Ce problème est aggravé par le biais d'automation, comme nous le précise Paille, c'est-à-dire que les opérateurs humains vont avoir tendance à se fier aveuglément aux décisions de la machine, bien même lorsque la décision est erronée. Cela est dû au fait que les humains se disent que la technologie a très certainement raison, et la machine devient alors une justification, dédouanant au passage les responsables humains de toute bavure. L'opacité du déploiement de ces technologies constitue un autre défi majeur. D'après la Quadrature du Net, plusieurs municipalités françaises telles que Moirans en Isère optent pour des logiciels de VSA sans qu'aucune réglementation précise ni consultation publique. Ces actions soulèvent des interrogations essentielles sur le plan éthique. Qui maîtrise ces dispositifs? Comment assurer nos droits essentiels? Cette opacité englobe également le recours à des informations biométriques, telles que notre manière de marcher ou nos expressions faciales. Malgré l'interdiction en France de les utiliser, des méthodes détournées permettent de les utiliser, notamment pour suivre des objets comme une valise en suivant son porteur. Ces pratiques illégales privent les citoyens de tout recours. Face à ces enjeux, la mobilisation est essentielle. La première étape, selon la Quadrature du Net, c'est de s'informer. Il faut documenter ces pratiques illégales afin de sensibiliser le public et de lui permettre ensuite de se mobiliser au travers d'actions juridiques et de manifestations. Pour finir, nous devons nous poser une question essentielle. Voulons-nous une société où chacun de nos gestes sont analysés par des algorithmes biaisés, ou préférons-nous une ville vivante et libre? En conclusion, la vidéosurveillance algorithmique n'est pas seulement une technologie. Elle représente une vision du monde où la peur justifie le contrôle. Cependant, cette peur est fabriquée par des discours politiques et ne doit pas faire oublier l'essentiel, nos libertés fondamentales et individuelles. La rue est un espace de passage, certes, mais c'est aussi un espace de vie et de rencontre. Il faut être prudent, car une fois les libertés perdues, il est presque impossible de les récupérer.
Merci, nous allons maintenant écouter Clément.
Bonjour, je vais à présent vous parler de sociétés algorithmiques sous un régime autoritaire et plus particulièrement du cas de la Chine et du crédit social. Ici, lorsque le gouvernement chinois parle de crédit social, il entend un système qui note les personnes entre 350 et 950 points pour leur offrir des avantages ou les priver de liberté. Mais comment font-ils pour noter les habitants et par quels moyens ? Pour ce faire, la collecte de données est faite par de nombreux moyens. Nous avons les caméras automatiques de reconnaissance faciale, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, des habitudes financières, ainsi que certains groupes auxquels vous appartenez. Tous ces facteurs mis bout à bout vont faire augmenter ou diminuer votre note dans diverses applications. Les habitants soumis à cette surveillance ont donc différentes applications à leur disposition, comme Sésame Credit, un système d'évaluation du crédit social individuel conçu par Ant Financial Service Group, une filiale d'Alibaba en collaboration avec le gouvernement chinois, ou encore Tencent Credit, développé de même avec le gouvernement chinois, mais cette fois-ci implémenté dans le célèbre réseau social WeChat. Ce système de surveillance fait néanmoins partie des plus intrusifs, d'après Le Monde, d'après Human Rights Watch, une organisation non gouvernementale internationale qui se donne pour mission de défendre les droits des hommes. Dans un article nommé China Chilling Social Credit Blacklist, ou en français La liste noire chinoise du crédit social fait froid dans le dos, publié le 11 décembre 2017 par Maya Fang, la directrice adjointe pour la Chine de Human Rights Watch, nous voyons les prémices des pensées de ce qui est le crédit social actuellement. Elle nous explique que ce dernier n'est pas juste un score de crédit classique, mais évaluerait comportement et propos. Si vous avez un mauvais score, vous pouvez être bloqué pour certains emplois ou écoles. Pour mieux comprendre les conséquences des points perdus ou gagnés, je vous propose d'écouter un extrait d'une conférence intitulant « Le système de crédit social » qui s'est déroulée en 2020. Cette présentation est réalisée par Séverine Arsène, sinologue et chercheuse associée au Media Lab de Sciences Po Paris, pour dévoiler les résultats de ses recherches, s'intéressant à la stratégie numérique de la Chine.
Vous avez soit gagné des points, soit perdu des points. Là, la municipalité peut vous aider à obtenir des prêts à taux privilégiés ou de manière plus facilitée. On peut vous donner des facilités de paiement dans les transports publics, des dispenses de caution pour des frais médicaux ou des locations de vélo. Et quand il s'agit de sanctions, là, pour le coup, augmentation des taux d'intérêt, annulation de certaines qualifications, comme des qualifications professionnelles, par exemple, déduction de points pour la participation au marché public, ce type de choses. Et enfin, si vraiment vous tombez tout en bas, là, on rentre dans l'accès restreint à certaines activités financières ou des restrictions à votre mobilité.
Vous venez d'écouter la conférence de Séverine Arsène sur le crédit social chinois. Pour finir, j'aimerais introduire la notion de servitude volontaire mentionnée dans un article du HAL Open Science ayant pour titre « Crédit social, spécificité chinoise ou processus de modernisation » publié en mai-août 2020 par Jean-Louis Roca. L'idée est que plutôt que de contrôler les gens par la force, ils utilisent le crédit social pour les asservir grâce au système de surveillance à suite de la notation. Mon intervention concerne la Chine et il est facile pour nous d'en dénoncer ces dérives algorithmiques. Mais il ne faut pas s'imaginer nous-mêmes être immunisés contre ces risques et fermer les yeux quand un prétexte émerge chez nous pour renforcer le contrôle algorithmique sur nos vies. Nous voyons dans les autres interventions que cet épisode des initiatives de surveillance algorithmique s'étend en France et dans le monde. Faire preuve d'esprit critique face à la banalisation de sociétés algorithmiques est une première étape plus efficace pour éviter la servitude volontaire.
Merci beaucoup. Et nous allons maintenant écouter Elisabeth.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes que pose la société algorithmique au quotidien en France et des moyens de lutte existants. Il existe plusieurs façons d'imaginer une société algorithmique, pilotée plus ou moins directement par des algorithmes. Mais au-delà de la vidéo surveillance que mes camarades ont déjà présentée, et de l'exemple évident des réseaux sociaux, les algorithmes nous impactent sans doute beaucoup plus directement que ce que vous pensez. Par exemple, saviez-vous que la CAF utilisait un algorithme pour classer les allocataires et décider de la mise en place ou non de contrôles antifraude ? Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, le fonctionnement de l'algorithme de la CAF était complètement opaque, en contradiction totale avec plusieurs dispositions légales. Ce n'est que grâce à l'action d'une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet, nommée la Quadrature du Net, dont on a déjà parlé, que le code source de l'algorithme a été rendu public. Les conclusions que l'on peut en tirer sont inquiétantes, puisque l'algorithme pratique clairement une forme de discrimination en attribuant à chaque allocataire un score de suspicion compris entre 0 et 1, selon différents critères discriminatoires comme le handicap ou de faible revenu. Quand ce score s'approche trop de 1, un contrôle antifraude est automatiquement déclenché. Les contrôles antifraude sont longs et pénibles, mais c'est le principe même de notation des citoyens qui est inquiétante, car ouvrant grand les portes à une surveillance de masse digne des pires dystopies. Surtout que ce type d'algorithme se généralise à d'autres organismes administratifs français, dont France Travail. France Travail, anciennement Pôle Emploi, développe actuellement des algorithmes pour une nouvelle fois attribuer un score d'honnêteté et d'employabilité aux demandeurs d'emploi, afin de différencier ces mesures envers eux. Cela pourra entraîner des discriminations en orientant les personnes jugées les moins employables vers des emplois dits en tension, souvent avec des salaires peu attractifs et des conditions de travail difficiles. Il convient également de rappeler que les algorithmes n'ont pas d'intelligence morale. Ce sont des programmes entraînés pour accomplir une tâche, qui ne sont pas doués des mêmes capacités de réflexion que les humains, même dans le cas d'intelligence artificielle relativement avancée. Sans un encadrement adéquat, ils peuvent être influencés par des biais qui ne seraient même pas forcément désirés par les créateurs. Petit exemple avec Aurélie Jean dans le podcast « Les algorithmes font-ils la loi de Sismic ?»
Vous avez soit gagné des points, soit perdu des points. Là, la municipalité peut vous aider à obtenir des prêts à taux privilégiés ou de manière plus facilitée. On peut vous donner des facilités de paiement dans les transports publics, des dispenses de caution pour des frais médicaux ou des locations de vélo.
Une petite erreur dans l'audio. On va écouter cette fois-ci le bon fichier audio.
De Apple, qui, je ne sais pas si tu te souviens, mais qui avait une application qui s'appelle l'Apple Card, qui est une application qui va vous permettre de bénéficier d'une carte de crédit d'Apple avec une ligne de crédit qui est calculée automatiquement par un algorithme sur l'application d'Apple. On s'est rendu compte il y a 2 ans que cette application, l'algorithme de cette application donnait des lignes de crédit jusqu'à 20 fois plus élevées chez les hommes que chez les femmes, à même condition fiscale et à même revenu, ce qui n'est pas normal. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'algorithme d'Apple, c'est un algorithme qu'Apple a acheté à Goldman Sachs. Juste pour que les gens comprennent, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme de Goldman Sachs, il l'avait entraîné sur les lignes de crédit du passé, et les femmes, dues à l'émancipation économique évidente, elles gagnent beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Et donc, partant de ce principe, en fait, les lignes de crédit accordées aux femmes étaient bien plus basses. Alors après, tu vas me dire, oui, mais pourquoi il suffit de ne pas collecter le genre pour effacer ce biais ? Ben, en fait, c'est pas si simple, parce que ça se trouve, il n'y avait pas le genre. En fait, on sait que, par exemple, par le métier que tu exerces, on sait qu'il y a des métiers qui sont genrés, et donc on va implicitement avoir une sorte de profilage implicite du genre à travers, par exemple, ton métier. Voilà. Donc il y a des choses en fait qui ressortent avec des tendances statistiques du passé qui sont aujourd'hui des discriminations.
Nous venons d'écouter Aurélie Jean dans le podcast « Les algorithmes font-ils la loi ?» de Sismic. Elle nous a expliqué comment des algorithmes entraînés sur des lignes de crédit du passé avaient des comportements discriminatoires envers les femmes. Ces biais sont un autre exemple. Excusez-moi, petit bug technique. C'est biais. Ces biais sont un autre exemple du problème que pose une société algorithmique. Mais quelles sont les réponses possibles à ces problèmes ? C'est à cette question que nous allons maintenant nous intéresser pour lutter contre les dérives de la société algorithmique en France. Tout d'abord, je vais faire un point sur le RGPD. Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, est une initiative européenne, entrée en vigueur en 2018, qui encadre le traitement des données, notamment les données personnelles. Sachez que grâce au RGPD, vous pouvez demander à tout moment à accéder aux données collectées sur vous pour les modifier ou les effacer. Dans la même idée, pour revenir au premier exemple que je vous ai donné sur la CAF, vous pouvez également entreprendre des démarches pour connaître votre score de suspicion. Sachez qu'il existe aussi une loi française datant de 2016, la loi pour une république numérique, qui impose la transparence des algorithmes publics quand ils servent à la prise de décisions administratives individuelles. Une mesure qui a parfois du mal à être respectée, mais qui a le mérite d'exister et de permettre des actions judiciaires quand certaines organisations refusent de s'y plier. Ensuite, il existe différents acteurs qui s'engagent dans la lutte contre la société algorithmique. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, chargée de veiller à ce que l'informatique ne porte pas préjudice aux citoyens. On y retrouve ensuite le DDD, DDD, Défenseur des droits, institution française luttant contre la discrimination et qui va combattre notamment les biais algorithmiques, dans le cadre qui nous intéresse. Dans cette même visée, l'INRIA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, a lancé le projet Redalia. D'autres associations, dont la Quadrature du Net dont j'ai précédemment parlé, participent également à cette lutte à mesure de leurs moyens. Dans le cadre plus précis de l'intelligence artificielle, nous pouvons parler de l'AIA, AIA, Intelligence Artificielle Hâte, une loi européenne qui s'appliquera d'ici fin août 2026 et fera encourir aux entreprises qui y dérogeraient une amende jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. L'AIA évalue les systèmes algorithmiques selon leur niveau de risque, en bannissant tous les algorithmes au niveau de risque trop élevé. Exemple, scoring biosocial, interdit car portant atteinte à la dignité humaine. De façon générale, plusieurs approches peuvent être utilisées par ces différents acteurs pour réguler la société algorithmique. L'approche réglementariste, mettre en place des lois, utilisée principalement par les États. L'approche de surveillance, vérifier le bon fonctionnement des algorithmes, utilisée par les comités. L'approche juridique, qui consiste à recueillir les plaintes et soutenir les démarches des citoyens, utilisée par les associations. Et l'approche préventive, que nous pouvons tous entreprendre à notre échelle individuelle. Maintenant, nous pouvons nous demander comment la société algorithmique va évoluer à l'avenir.
Merci, et on va écouter pour la conclusion à nouveau Rémi.
Après avoir vu ces algorithmes dans la société actuelle, nous allons maintenant parler de leur futur, des possibilités qu'ils nous offrent et ce qu'ils peuvent changer dans notre société. Voici un extrait d'une intervention en mai 2022 à l'Université de la Sorbonne de Claire Mathieu, informaticienne et mathématicienne française, ayant notamment participé à la création de l'algorithme de Parcoursup.
Si on est réduit à la puissance de calcul manuelle, en fait, avant le numérique, en gros, par exemple, pour les affectations, on avait tendance à aller à côté de chez soi. Pour les emplois du temps, on essayait de faire des règles simples pour que tout le monde fasse plus ou moins la même chose en même temps, sinon on s'en sortait plus. Donc, avec la puissance de calcul du numérique, ça ouvre la possibilité de faire des propositions bien plus diverses.
Et personnalisées, du coup ?
Et personnalisées. Et en fait, comme à chaque fois qu'on donne beaucoup de choix aux gens, ceux qui savent le mieux exploiter ces choix, ce sont les personnes qui sont le plus au courant.
Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours un bonus.
Il y a toujours un problème entre le fait de donner plus de liberté, plus de potentialité, et le fait que ceux qui savent se saisir de ces outils, ces atouts, ces libertés et ces opportunités, ben, ce sont ceux qui sont le plus au courant.
Ceux qui connaissent le système, finalement.
Ceux qui connaissent ou qui comprennent.
C'était donc une intervention de Claire Mathieu à la Sorbonne. Cet extrait montre à la fois un avantage et un désavantage des algorithmes. Ils créent des possibilités, mais ceux qui en profitent vraiment sont ceux qui connaissent le fonctionnement de ces algorithmes, donc les classes supérieures. On peut retrouver cette idée dans le livre « L'homme diminué par l'IA » de Bertolucci Marius, qui présente deux hypothèses. Une société où cette avancée permet à l'homme de s'affranchir de tâches peu intéressantes, tous les travails durs, etc., avec donc une réduction du temps de travail, pour lui permettre de s'investir dans des activités épanouissantes et bonnes pour l'humain, l'art, la nature. Ou alors une hypothèse d'une société type Ancien Régime, divisée entre une élite maîtrisant l'IA et l'utilisant contre une population qui serait appauvrie par l'usage de ces IA et perdrait la capacité à prendre par eux-mêmes ces décisions, car leur pensée serait orientée et changée par ces algorithmes. Il pense que l'on risque un horizon bloqué par les écrans, selon ses mots, avec une absence de projection collective vers l'avenir. De plus, l'idée d'une IA gouvernante est aussi présente. Une IA remplaçant le rôle d'un homme politique, prenant des décisions pour la société. Au Japon, une IA présentée aux élections municipales a remporté 9% des voix et on retrouve un début d'acceptation en Europe, explicable par un changement. La légitimité politique devenant une légitimité managériale, où la performance devient prioritaire. L'IA s'inscrit donc dans une modification globale de notre société et de nos visions politiques, où l'efficacité devient une priorité, peu importe le domaine, que ce soit dans l'économie, la politique ou tout ce qui est sociétal, et où donc la rapidité d'un algorithme compenserait largement les différentes erreurs qu'il pourrait faire, la perte de la prise de décision par l'humain, et les problèmes moraux que cela engendre, qui deviendrait une sorte de perte presque acceptable en échange.
Merci à tous pour vos interventions et on va maintenant passer aux questions. Donc les autres étudiants ont des questions par rapport à vos interventions, mais je vais me permettre de vous poser la première. En tant qu'individu, avez-vous des exemples de choix que je peux faire pour refuser ou limiter la mise en œuvre de la surveillance ou du contrôle algorithmique sur moi ?
Tout d'abord, comme on l'a vu, on peut demander, si c'est fait par le gouvernement, on va pouvoir notamment demander à ce que les algorithmes soient publics, si on a peur que certains algorithmes soient discriminatoires. On peut toujours demander à supprimer des données, ça c'est quelque chose au niveau européen qui est autorisé. Et après, il y a des choses, typiquement la vidéosurveillance, c'est compliqué d'y échapper. Il va falloir manifester, aller à l'encontre, mais quand c'est installé, à part se prononcer contre, on ne peut pas vraiment faire quelque chose, à part fuir toutes les rues où il y a des caméras.
Très bien. Alors, une autre question. Est-ce que, comme on le voit dans certaines séries de télévision, finalement, le crédit social, c'est une manière de pratiquer l'autocensure ? Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer le concept de panoptique pour parler de l'autocensure ?
Non, je ne sais pas.
D'accord. Est-ce que
Concernant la partie sur la censure, je dirais que c'est même, évidemment, je pense, le but principal. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte que les citoyens aillent dans le sens du gouvernement. Et donc, tout débordement, tout ce qui irait à l'encontre de cette volonté du pays serait punissable. Et si ce n'est par des moyens juridiques directement, ça serait tout simplement en rendant difficile la vie de ceux qui s'opposeraient. Donc, ça a évidemment un but de censure.
Donc, concernant la panoptique, qui était une deuxième partie de la question, à l'origine, ça n'a pas vraiment de rapport avec la société algorithmique, ça vient des prisons. C'était une prison dans laquelle les détenus pouvaient être surveillés en permanence, une prison un peu ronde, et les détenus ne savaient pas si quelqu'un les regardait ou pas. Et en fait, ça les aurait rendus plus ou moins fous, et ça aurait totalement modifié leur comportement de ne pas savoir s'ils sont regardés ou pas. C'est encore pire que d'être regardé en permanence. Et ça a été transposé à une société de contrôle algorithmique où on ne sait pas ce qui est fait de nos données quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va sur Internet, etc.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau des algorithmes qui sont utilisés, est-ce qu'il y a des tests ou des vérifications obligatoires qui aujourd'hui sont faits sur les algorithmes ?
Alors oui, il y a des tests qui sont effectués par certains organismes. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés dans des cas qui sortent de la légalité, qui sont parfois cachés. Et donc, c'est très compliqué à ce jour de faire la part des choses et de savoir quels algorithmes sont utilisés à quel endroit, parce que par définition, ils sont opaques. Mais oui, il existe des organismes. Là, je ne pourrais pas les citer, je ne m'en souviens plus. Mais certains organismes et certaines lois commencent à prendre en compte ce sujet.
Alors maintenant, une autre question au niveau du RGPD. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste et surtout, est-ce que ça nous permet de supprimer nos données personnelles, celles que nous donnons quand nous utilisons, par exemple, des services sur Internet ?
Donc le RGPD, c'est assez large, ça englobe plusieurs éléments. Je ne les ai pas forcément tous en tête parce que c'est comme un des articles de loi. Ça permet théoriquement d'effacer toutes ces données sur Internet, mais il y a des limites. Par exemple, les données que vous rentrez à l'État pour faire vos impôts, vous pouvez difficilement demander à les effacer, sinon vous entrez en infraction avec l'État. Après, théoriquement, vous pouvez demander l'effacement de vos données quand vous connectez sur les sites Internet, c'est assez facile à faire. Et après, certaines démarches sont plus longues, mais théoriquement, c'est possible.
Mais cela ne veut pas dire que ça sera toujours possible pratiquement parce que, on le sait, tout ce qui est sur Internet va globalement rester parce que certaines personnes vont sauvegarder ces données pour au cas où les voir plus tard. On va toujours pouvoir les retrouver. Donc le mieux, c'est de ne pas donner de données, ou le moins possible.
D'accord. Et je vous propose de terminer sur une question beaucoup plus générale. pourquoi finalement les humains font tant confiance aux technologies ?
J'aurais tendance à dire personnellement que les technologies, c'est ce qui nous a amené jusque-là. C'est ce qu'on a tout autour de nous, c'est ce qui fait que nous avons des voitures, c'est ce qui fait que nous avons cette radio. Et avoir peur de la technologie, ça va à l'encontre de notre société. On a envie d'avoir ce qui est nouveau, on fait confiance dans notre quotidien à toutes ces technologies, on fait confiance au train, on fait confiance à notre voiture. Donc, et il y a un côté que une technologie nous semble toujours infaillible. Quand on l'a dans notre quotidien, si on n'a pas eu de problème avec, on a l'impression qu'il n'y en aura jamais. C'est un biais commun. Donc je pense que c'est pour ça. On a vraiment cette impression de sûreté parce que la technologie nous sert au quotidien.
Eh bien, merci beaucoup. Donc c'était l'émission La Société Algorithmique avec Rémi Marion Marnet, Lucas Beriot, Clément Renard, Elisabeth von Boxtal et moi-même Stéphane Poinsard. Je vais également citer Stéphane Crozat, le responsable des enseignements de WE1 à l'UTC, et Quentin Duchemin qui anime comme moi un groupe de TD. Je les remercie pour leur aide à la préparation de cet épisode. Cette émission est réalisée dans le cadre du cours, cours WE01 et du projet LibreCours.net, diffusé en direct depuis le studio de la radio Graphite le 11 décembre 2024. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour un deuxième épisode consacré à la croissance du numérique. Merci à tous.